prochaine. On va commencer notre sixième cours, je crois que c'est sixième ou septième, sur le chapitre 37, page 155. Vous avez un livre, monsieur Akos ? Voilà.
Hop là, merci.
Donc, résumons. La semaine dernière, on a beaucoup parlé d'une mitzvah importante dans le judaïsme, la mitzvah de la tzedaka. Vous vous rappelez du cours la semaine dernière ? Je vais rappeler très rapidement. On a expliqué la semaine dernière que la tzedaka avait des caractéristiques uniques qu'on retrouve dans aucune autre mitzvah, à savoir le fait que lorsque je donne la tzedaka, je ne donne pas seulement un moment, une parcelle de ma personne, mais je donne pratiquement toute ma personne. On a expliqué longuement que lorsqu'on donne la tzedaka, c'est pas seulement...
Ils ont fait ça tout à l'heure.
Qu'est-ce qui se passe ?
Non, il y a mon fils qui doit venir. Donc
Ils ont refermé à clé.
Non, j'ai pas fermé.
Non.
C'est ouvert.
Ah, mais il connaît pas le code.
Bon. Donc, je disais qu'on a expliqué... On a expliqué Chazak. On a expliqué que la mitzvah de Tzedaka est une mitzvah exceptionnelle. Exceptionnelle dans le sens que lorsque je donne la Tzedaka, c'est pas seulement une partie de mon temps que je donne, c'est pas seulement une partie de mon argent que je donne, mais c'est carrément une partie de ma personne que je donne. On avait expliqué que c'est la raison pour laquelle dans le Talmud de Jérusalem, quand on dit qu'une personne a fait une mitzvah sans préciser laquelle, de quelle mitzvah il s'agit, il s'agit de la mitzvah de la Tzedaka. D'accord ? Voilà, c'est clair. Parce que, comme on a expliqué, dans le mitzvah de la tzedaka, c'est tout le corps qui se raffine, qui monte vers un kadosh baruch hu. Et c'est la raison pour laquelle, on a terminé, que c'est la raison pour laquelle la mitzvah de la tzedaka est une mitzvah qui approche la geoula plus que toutes les autres mitzvahs. Sauf que, comme on avait commencé la semaine dernière, maintenant on va essayer de montrer que d'un autre côté, c'est pas si simple. D'un autre côté, on a beaucoup d'autres textes qui nous parlent de l'importance de l'étude. Et là, le débat qu'on va commencer maintenant, c'est un grand débat qui partage beaucoup de monde, sur lequel, à savoir, qu'est-ce qu'il faut privilégier entre le monde de l'action et le monde de l'étude? Alors, je suis sûr que les hommes d'action me répondront l'action, et les hommes d'étude me répondront l'étude. J'ai pas envie d'entendre la réponse que vous pensez. Des fois, il faut chercher la réponse qu'on n'a pas envie d'entendre.
Ah ben, la réponse, elle est simple. On peut pas se passer l'un de l'autre.
Oui, non. L'un a besoin de l'autre. Mais c'est pas ça. Je remets pas en question le fait qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, je suis pour ça.
Dans la synthèse, déjà.
Je ne suis pas dedans. Moi, je pose la question pour chacun de nous. Pas dans la globalité, le fait qu'il y a un qui est comme ça, un qui est comme ça. Pour chacun de nous. Est-ce qu'il faut privilégier l'action ou est-ce qu'il faut privilégier l'étude? D'un côté, on a expliqué le Talmud de Jérusalem que la tzedaka, donc l'action, c'est la mesure la plus importante, c'est la mesure qui nous approche le plus de Mashiach. D'un autre côté, on va expliquer longuement aujourd'hui que l'étude de la Torah a des qualités extraordinaires en elle qui n'y a pas dans aucune autre chose. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand vous regardez toutes les peintures qui vont montrer des juifs, comment on voit le juif en général? En train d'étudier. D'accord? Parfois, on le voit en train de mettre la tzedaka aussi, d'aider à quelqu'un.
C'est rare, ça.
Vous avez raison. D'accord. C'est rare. Donc on voit que l'étude, c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. L'étude a toujours été très présente dans le peuple juif. Et on a toujours accordé une place très importante à l'étude, et pas une place d'un 613e. Parce que étudier la Torah, c'est une mitzvah. Mais je peux pas dire qu'on accorde une place à l'étude de la Torah, à seulement l'équivalent d'un 613e. Non, c'est faux. On accorde beaucoup plus d'importance que ça à l'étude de la Torah. Par exemple, moi j'ai une seule paire de tefillin et j'ai plus de 2000 livres à la maison. Donc voilà, donc tout de suite, tu vois tout de suite le ratio. Il a pas dit pourquoi il a une paire de tefillin et il a peut-être 10 mezuzot. Enfin, je sais pas compter, d'accord. Et il a comment ça se fait?
Alors c'est quoi?
Comment
ça se fait?
Comment je vais vous dire comment ça se fait? Parce que c'est clair qu'on accorde de l'importance à l'étude de la Torah. Et ça, c'est la question du cours d'aujourd'hui, puisqu'on n'arrête pas d'expliquer que le but et que la mitzvah la plus importante, c'est la mitzvah de la tzedaka. Dans ce cas-là, pourquoi même ouvrir les livres? À la limite, ouvrir les livres pour voir ce qu'il faut faire, je veux bien. Mais après, il faut tout de suite gagner un maximum d'argent pour donner un maximum. Et pourtant, on voit que c'est pas forcément l'approche. Alors pourquoi? On va essayer d'expliquer aujourd'hui le revers de la pièce. Essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la mitzvah de la tzedaka. Alors, tout d'abord, dans la mitzvah de l'étude de la Torah. Tout d'abord, on va essayer d'analyser ensemble, avant d'entrer dans le texte. Quand je donne la tzedaka, je donne la tzedaka avec quoi? quel membre participe
quand je mets droite.
Ma main.
Ma main. Bon, c'est vrai qu'on a dit que c'est ma main droite qui va donner, mais que ça va exprimer le corps entier. Mais dans les faits, je ne suis pas obligé de faire appel à mon intellect quand je donne la tzedaka, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. C'est-à-dire, je vais faire appel un tout petit peu à mon intellect pour décider peut-être combien je donne. Bon, voilà.
Pour me souvenir déjà.
Pour me souvenir, exactement, que je dois faire un don, que je promis, que je vais faire un éder. Mais on va dire que c'est pas une mitzvah intellectuelle, vous êtes d'accord avec moi?
Ouais.
D'accord. Maintenant, si je vous pose la question, qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qui me différencie, qu'est-ce qui nous différencie entre un homme et un chien?
Le langage.
La capacité,
alors là, peut-être que tu dis,
le
langage.
Le chien ne peut pas accomplir
ce... Il y a des animaux qui parlent très bien, tu sais, il y a le langage des animaux.
Ah, excuse-moi, je me suis mal exprimé, c'est pas le langage.
Ah.
La parole. C'est, en réalité, le chien ou l'animal, il est programmé pour faire une certaine chose.
D'accord.
Nous, on a cette faculté, si on est programmé de réfléchir et de décider de faire le contraire. Donc, on est en fait...
Tu dis la qualité de l'homme, c'est son libre arbitre.
Libre arbitre.
D'accord.
Oui. Le chien, il n'a pas de libre.
Mais c'est pas une réponse. Parce que, excuse-moi de te reprendre.
Il a
avec ça, tu expliques la particularité de l'homme, c'est une bonne réponse.
Nous, on a la capacité d'être solidaires les uns des autres.
Les animaux aussi ont ça. Les animaux beaucoup plus solidaires que nous. Je vais aller plus loin. Le libre arbitre, c'est une mida très importante. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que c'est pas ça ce qui exprime la beauté de l'homme. Le fait que l'homme dépasse tout le monde de loin. Ok, il a libre arbitre. Ça exprime le fait qu'il est différent. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme est différent de tout le monde? Il y a une seule réponse.
Il réfléchit.
C'est que l'homme réfléchit.
Oui.
C'est que l'homme a un intellect. Et que l'homme a un capable. Là, je vais dans la même direction de ce que tu as dit. Il est capable de réfléchir.
On a vu des chiens faire des calculs.
Ça n'a rien à voir. Non.
Mais ça,
il fait un calcul dans le sillon qu'on lui a tracé.
Oui.
Mais c'est pas plein de calculs, ça.
J'ai vu en Thaïlande des éléphants qui faisaient des peintures, des tableaux.
Vous connaissez l'histoire avec Maïmonide? Une fois, Maïmonide, lui, dans ses écrits, il a écrit que d'après lui, la seule personne qui peut changer sa nature, c'est un homme.
C'est la seule personne.
Et qu'un animal ne peut pas changer sa nature.
Il peut pas changer, c'est impossible.
D'accord. Alors il y avait donc d'autres scientifiques qui étaient de son époque, qui étaient bien sûr jaloux de lui parce que il était très aimé du sultan. Enfin, je sais pas comment on appelle ça à l'époque, sultan. Donc il était très aimé. Et donc il y avait des concurrents à lui qui ont dit on va prouver que Maïmonide se trompe. Donc ils ont fait une grande conférence, ils ont invité tout le monde, le sultan, etc. Dans laquelle ils ont dit on va vous prouver qu'on va apprivoiser un animal. Au point que ce qu'on lui a appris à faire, il fera parfaitement, comme un homme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le challenge était, on va apprendre à un animal, un chat, un grand chat, à se tenir sur les deux pattes et à venir servir un plateau avec du thé. Pas mal.
Pour les Marocains.
Pour les Marocains.
Cercle d'air.
Hein, comme ça.
Ils l'ont fait, c'est pas mal.
Pas mal. D'accord? Et le challenge, il fallait accomplir ça en un mois. C'était le challenge. Maïmonide, il leur a dit, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir à changer un animal. D'accord? Eux, ils ont dit, on va réussir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont dressé. Donc, il y a eu plusieurs, ils étaient à plusieurs, ils ont dressé plusieurs chats. Et la scène était que, un mois plus tard, effectivement, ils ont organisé une grande, grande réunion. Et il y avait donc des milliers de personnes qui étaient là. Avec, bien sûr, le sultan qui regardait. Et là, c'était quoi le clou du spectacle? À un moment, tu as deux chats qui s'approchent, qui avancent, qui marchent sur deux pieds comme ça. D'accord? Qui marchent sur deux pieds et qui avancent avec un plateau de thé. Et là, Maïmonide, il était au courant. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez la chorma de Maïmonide. Il avait préparé dans sa poche une petite boîte. Et dans cette boîte, il avait mis une souris.
Une souris.
Il attendait que les chats, ils arrivent pile devant le sultan, tu vois. Et là, Maïmonide, il a ouvert sa boîte, il a laissé la souris partir. Pac! Ils ont tout cassé, ils ont tout sauté, tous les chats, ils se mettent à courir pour déchirer la souris. Maïmonide leur dit, vous voyez?
Vous n'avez pas changé la nature. Je ne peux pas changer la nature d'un animal.
Je ne peux pas.
Et de l'homme, est-ce qu'on peut la changer?
Oui. L'homme, il peut apprendre à changer sa nature.
Non, lui, il peut changer sa
nature. Il peut apprendre à changer sa nature.
Lui, il peut la changer.
Mais ça veut dire que même si le chat, vous allez l'habituer à ne pas réagir à la souris, il ne peut pas. Il peut pas.
Tout arrive.
Il va craquer, c'est sûr qu'il va craquer. Alors que l'homme, il peut s'habituer.
C'est comme un lion, tu peux pas le rendre herbivore. C'est pas possible. Toi, tu peux être herbivore si tu as envie. Mais le lion,
il peut pas.
Mange la salade aussi.
Tu peux changer la nature.
Non.
Ou une girafe, tu ne peux pas la rendre carnivore. C'est pas possible.
Ah, pourquoi je vous parle de tout ça? Quelle est, il faut qu'on revienne à la question. Quelle est la qualité de l'homme? La qualité de l'homme, number one, c'est le fait que l'homme réfléchit. On est d'accord? Ça veut dire que si on est une personne qui n'utilise pas son cerveau, qui utilise très peu son cerveau, on lui dit dans ce cas-là, honnêtement, quelle différence entre toi et un chien? Quelle différence entre toi et un renard? Allez, vas-y, un renard, c'est bon? Tu fais qu'un renard ou un lion? Quelle différence? La différence, c'est que l'homme réfléchit. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'un animal peut donner la tzedaka?
Non.
Réfléchissez avant de répondre.
Il peut aider.
C'est quoi la tzedaka?
Aider.
C'est un geste.
C'est quoi? Non, mais c'est quoi la tzedaka? Vous, de la tzedaka, vous imaginez de l'argent.
Donner de ce qu'il a.
Exactement. Donner de ce qu'il a. Est-ce qu'un chien peut faire de la tzedaka? Pourquoi pas?
Mais parce que il ne pense pas forcément à partager.
Justement. Imagine-toi maintenant que tu as un chien. Il est parti, il a un gros beefsteak, il prend un morceau de son beefsteak, il donne à son copain. Hein? Il donne à son copain.
C'est possible
ou c'est pas possible?
Oui.
C'est possible. Non, puisqu'il voit un autre qui a faim, il a pitié, il lui donne. Qu'est-ce qu'il y a?
Les chiens, même.
Non. C'est possible?
C'est possible, c'est possible.
Ouais. En général, c'est pas comme ça que ça marche. Hein.
D'accord. Vous voulez un autre animal? Il y a d'autres animaux comme ça?
Non, ils mangent d'abord et après, s'ils ont plus faim, ils laissent.
D'accord.
Et non, mais ils nourrissent leur
part. Ok. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un chien qui décide de donner à manger à quelqu'un d'autre?
Oui, mais
très bien. Donc c'est possible. Donc c'est de la tzedaka. D'accord. Donc finalement, est-ce que quand moi je donne la tzedaka, j'utilise mes qualités humaines? Pas forcément, puisqu'un chien aussi aurait pu donner la tzedaka. Ben oui, c'est-à-dire même un animal aurait pu donner la tzedaka. Donc c'est vrai que c'est très très important, c'est une mise à très importante dans laquelle je donne tout ce que je gagne tel qu'on l'expliquait la semaine dernière. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dire que lorsque je donne la tzedaka, je ne peux pas dire, Rabotai, que lorsque je donne la tzedaka, j'exprime, j'utilise mes qualités humaines. J'utilise mes qualités que Dieu a donné à un être humain. Non, pas forcément. Pour donner la tzedaka, j'ai pas besoin d'utiliser les qualités que Dieu a donné à un être humain.
Si, quand même, si.
Je peux utiliser si je veux, mais j'ai pas besoin de ça. Ça veut dire qu'en d'autres termes, la tzedaka n'est pas une mitzvah qui est liée forcément à l'intellect. Or, étant donné qu'on vient d'expliquer, qu'on vient de démontrer que la qualité numéro un de l'homme, c'est son intellect, ça veut dire que finalement, quand on réfléchit bien, la majorité des mitzvot qu'on fait ne sont pas liées à notre intellect. Donc ça veut dire que j'ai pas donné ce que j'ai de plus cher à Dieu. Combien de personnes on connaît comme ça, et chacun de nous, on connaît nous-mêmes, des fois aussi. Tu vas donner à Dieu de ton temps, tu vas donner à Dieu de ton argent, tu vas donner à Dieu, etc. Mais il y a une zone au fond de toi, une zone très très profonde, qui est ton moi, ton vrai moi, qui est ton intellect. Ça, tu le donnes pas à Dieu. Ça, tu dis ça, tu me le laisses, j'étudie ce que j'ai envie d'étudier, j'étudie pas la Torah. Et c'est ça le chidouche, la nouveauté quand un juif il étudie la Torah. Quand un juif il étudie la Torah, mis à part le fait que c'est une mitzvah, etc. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans la Torah? C'est que lorsque j'étudie la Torah, je donne mon moi à Dieu. Je donne mon moi, c'est mon moi ça. Ça veut dire quoi c'est mon moi? Ça veut dire que, qu'est-ce qui me fait la différence? Vous savez, tu prends deux produits, qu'est-ce qui fait la différence entre le produit A et le produit B? Le produit A a une qualité spéciale, et ça c'est son moi. Quel est le moi de l'homme? Le moi de l'homme, c'est son intellect. Et quelle est la mitzvah dans laquelle on utilise l'intellect? C'est l'étude de la Torah. Vous prenez toutes les autres mitzvot, en tout cas l'écrasante majorité, on n'a pas besoin d'utiliser l'intellect. C'est lié aux mains, c'est lié aux pieds, c'est lié, etc. C'est pas lié à l'intellect. Un animal aurait pu le faire aussi. C'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons, c'est la première raison.
C'est normal, parce que c'est une étude. Et une étude, évidemment. Tu ne la fais pas avec les pieds, tu la fais avec la tête.
J'ai compris, monsieur Benita, mais si on fait le bilan dans une journée, j'ai fait aujourd'hui, par exemple, 15 mitzvot, plus l'étude de la Torah. À la fin de la journée, j'arrive, je fais le bilan, je dis, qu'est-ce que j'ai donné à Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que moi je donne à Dieu aujourd'hui? Alors attendez, j'ai pas fini. Si je dis que j'ai fait des mitzvot de tzedaka, j'ai mis des tefilin, etc. C'est très bien ce que tu as fait. Mais c'est pas sûr que quand tu as fait ça, t'as donné ton moi, t'as donné ta qualité humaine, qui est l'intellect. C'est-à-dire c'est possible que j'ai fait plein de mitzvot, mais mon intellect, mon moi, je l'ai pas donné. Il est resté dans mon foot, il est resté dans ma science, il est resté dans ce que je veux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire tu vas demander à quelqu'un, tu vas dire c'est quoi ton moi? C'est quoi ton moi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Un, il va te répondre, c'est le foot. Un, il va te répondre, c'est la science. L'autre, il va te répondre, c'est les voitures.
C'est la Torah.
Exactement. Donc, chacun, il va te répondre ce qu'il veut répondre. Et c'est ça ce que je demande. Ça veut dire que, il y a des mitzvot, il y a des actions, et il y a mon moi. C'est quoi mon moi? C'est ce que je réfléchis.
Et la tefila,
là ben, je... Pareil, non. La tefila, c'est pas l'intellect, la tefila. La tefila, c'est le travail du cœur. Oui, c'est... j'ai pas dit que c'est pas du temps. Attendez, j'ai pas négligé les mitzvot. Mais j'ai dit, un chien aussi peut faire la tefila. Peut-être avec même, peut-être pas avec les mêmes mots que moi. Vous savez, tous les animaux, tous les matins, ils font la prière. Vous savez ça?
Ah bon?
Bien sûr.
Les animaux.
Tous les animaux.
Si, si.
Tous les animaux, tous les êtres humains, tout, enfin, tous les êtres par tous les êtres créés, tous, ils font tous une prière le matin. Tous. Les as, tous, ils font une prière.
Ah bon.
Évidemment.
Il est où Dieu?
Shlomo HaMelech, le roi Salomon. Il a, quand Akadosh Baruch Hu lui a donné la chorma de comprendre le langage des animaux, il était capable de comprendre comment les animaux louaient Akadosh Baruch Hu.
Oui.
Nous, on entend ba, on croit qu'il raconte des bêtises. Il parle.
Piaf.
Bien sûr qu'il parle. Alors, quelle différence entre ma tefila et la tefila d'un chien? Bon, la mienne est plus élaborée, elle est mieux exprimée, d'accord? Qu'est-ce que ça change? Vous voulez prendre un autre animal, le chien vous dérange apparemment. Prenez une souris, vous voulez qu'on parle d'une souris?
Le singe.
Bien sûr.
Nous, on est
le mental.
Hein Serge, il va se mettre à la chasse de souris cette nuit.
Tous les animaux. Alors, quelle différence? Ça veut dire que même dans la tefila, on n'utilise pas l'intellect. Vous êtes d'accord avec moi? La tefila, j'utilise pas mon... Je peux utiliser mon intellect, mais c'est pas une mitzvah qui est intellectuelle.
Et la kavana, bon, quand tu fais la tefila?
Même la kavana, dans la tefila, qu'est-ce qui parle le plus? J'essaie de faire parler mon cœur. Donc j'essaie de trouver des mots pour faire parler mon cœur, mais c'est mon cœur qui parle. C'est pas une mitzvah qui est intellectuelle. C'est pas une mitzvah dans la... C'est une mitzvah qui est émotionnelle. Et combien d'exemples de gens on connaît comme ça, si c'est la vérité? Des gens qui peuvent faire toutes les mitzvot, mais que leur aspect intellectuel, ils ne le donnent pas à Dieu. Puis ça, ils vont l'utiliser pour étudier d'autres choses.
Qu'est-ce intellectuel, tu veux dire, c'est la réflexion?
La réflexion.
Mais
la réflexion.
Mais pour la tefila, on ne te demande pas de
réfléchir.
Non, la tefila, on te demande de ressentir. C'est ça la question. J'arrive à la fin de la journée. Je veux dire, j'ai fait 15 mitzvot. Mais qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? J'ai donné à Dieu ma main, mon pied, mon temps. Très bien. Mais est-ce que j'ai donné à Dieu mon moi? Est-ce que j'ai donné à Dieu mon moi qui est mon intellect?
Attendez, on n'a pas donné le moi.
Non, j'ai donné mon effort, j'ai donné mon corps. Mais est-ce que j'ai donné mon intellect? Est-ce que j'ai mis mon intellect dans la chose? Est-ce que j'ai pris mon intellect pour réfléchir à Dieu? Non, pas forcément. Pas forcément. Alors que,
c'est bon.
D'accord? Alors que, quand j'étudie la Torah, je prends ma tête et au lieu d'utiliser ma tête pour comprendre. Serge, donne-nous un bon modèle.
Lamborghini Aventador.
Tu es à la côté de...
Qu'est-ce qu'elle a?
Donne-nous un bon modèle.
La Ferrari.
D'accord.
Elle s'appelle la Ferrari.
La Ferrari, elle s'appelle. Ah, c'est The Ferrari.
Lamborghini,
là. Ah, il est passé Lamborghini.
Non, mais là, il a changé de religion.
Dis-moi, c'est quoi ça? T'as changé d'écurie ou quoi?
Non, j'ai pour faire l'extravagance, quoi. Bon, là, la Ferrari.
La Ferrari. Très bien. Alors, tu comprends, quand quelqu'un, il a sa tête de danseur, il réfléchit à ça tout le temps. Quand tu arrives à la fin de la journée, tu dis maintenant, ma tête, au lieu de réfléchir à des choses qui m'intéressent, je vais essayer de me casser la tête pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Je vais essayer de me casser la tête pour comprendre qu'est-ce qui se passe si un il fait ça et l'autre il fait ça, quel sera le dîme. Je dis, mais attends, pourquoi tu te prends la tête? C'est les affaires de Dieu, ça. J'utilise mon intellect, ma chorma, pas pour comprendre comment je vais développer mon affaire et comment je vais avoir accès à mes plaisirs. Je vais casser ma tête pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu y veut. On te dit, ça c'est unique. Ça c'est un don de soi unique que tu retrouves dans aucune autre mitzvah. Le fait que tu ne donnes pas seulement de ton temps, tu ne donnes pas seulement de ta personne, tu donnes carrément ton être, tu donnes ton moi, tu donnes ton moi qui est ton sechel.
Pourquoi j'ai besoin de me casser la tête puisqu'on me dit, naasé v'nishma?
Oui, j'ai compris.
Pourquoi j'ai besoin de me casser la tête?
Encore une fois,
je devais apprendre un poème, tu vois, je l'apprends par cœur.
Parce qu'encore une fois, excuse-moi, l'erreur que tu fais, c'est que pour toi, pourquoi j'étudie la Torah? Tu dis pourquoi j'étudie la Torah? C'est pour savoir comment je dois me comporter. Je te réponds, c'est faux. Parce que quand tu étudies la Gemara, tu verras qu'au moins trois quarts de ce que tu étudies, ce n'est pas lié à ce que tu accomplis tous les jours. Et tout celui qui m'accorde de Gemara peut confirmer ce que j'ai en train de dire. C'est les trucs qu'on fait plus, qu'on fera pas, donc c'est l'étude. Donc c'est pas de l'étude pour savoir. Si tu veux faire de l'étude pour savoir ce que tu vas faire, tu ouvres un Shulchan Aruch.
Mais il nous demande quoi?
Alors justement, c'est qu'on voit que prends un juif qui étudie la Torah, tu lui dis voilà, t'as passé maintenant 4 heures à étudier la Torah. Sur les 4 heures que t'as étudié, combien de temps de ces 4 heures concerne quelque chose de concret, quelque chose de technique que tu vas faire maintenant? S'il te répond qu'il a trouvé 30 minutes de concret, c'est le bout du monde. Et à mon avis, il les trouvera bas. Si on trouve 10 minutes dans 4 heures, c'est déjà le bout du monde. Tu dis alors à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez ce qu'on a fait? C'est ça, c'est la réponse. C'est que c'est pas seulement qu'on a essayé de naasé v'nishma, de comprendre ce qu'on doit faire. on a essayé de se casser la tête pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Même si moi, ça me concerne pas parce que c'est pas ma vie.
Alors, une fois mes affaires. Le sais, alors j'ai plus besoin de.
Non, mais attendez. Monsieur Benita. Monsieur Benita. Vous êtes d'accord avec moi qu'on peut passer une vie à comprendre sa femme?
Ah, là, là, plus
de bon, ça. Alors. Alors. Eh ben, imaginez que pour comprendre Dieu, combien il faut?
Il faut plus que ça. Il faut l'éternité, c'est long.
Je vais vous répéter une blague de Jackie.
Oui, allez. En anglais, hein. Si
pas, profitez tant qu'il est là.
En bonne santé. Alors, une fois, il y a quelqu'un qui demande à quelqu'un qui se comporte bien, vraiment, il se comporte comme il faut, et il habite en Floride. Alors, tu le connais? Alors, une fois, il fait un rêve et Dieu vient lui parler. C'est une blague, attention, hein, je précise. Dieu vient lui parler, il lui dit, écoute, voilà, t'as assuré, on est très content de toi dans le ciel. On te prépare un gros gain d'un en haut, mais on veut te donner une petite récompense en bas. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors lui, il réfléchit. Il dit, ce qui me ferait plaisir, moi j'ai un rêve, j'ai une belle voiture, et j'ai un rêve de partir avec ma voiture à Jérusalem. Mais non, bon, je peux pas aller avec ma voiture à Jérusalem, je peux pas rouler dans la mer. Donc, j'ai un rêve de voyager en voiture, de rouler pour aller à Jérusalem. Alors, Dieu lui dit, écoute, c'est compliqué, tu comprends, il y a la mer, il faut traverser plusieurs océans, etc. C'est très compliqué de faire une autoroute, tout ça, c'est vraiment de nombreux miracles, ça. Alors, Dieu dit, écoute, réfléchis, je reviens demain soir. Il réfléchit, et le lendemain soir, Dieu revient, il lui dit, alors, t'as réfléchi à ce que je t'ai demandé? Je vais te faire plaisir, comment je peux te faire plaisir? Alors, il lui dit, écoute, Dieu, j'ai pensé à autre chose, quelque chose de plus simple, quelque chose de... Ma femme, est-ce que tu peux me donner une bénédiction que j'arrive à comprendre ma femme? Voilà, juste tout ce que je demande. Alors Dieu lui répond, l'autoroute, 4 voies ou 5 voies?
C'est plus facile, oui.
C'est une blague à vous, ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais... Ah oui, c'est M. Cohen, ça fait longtemps qu'il me raconte ça.
Il y a un proverbe chez vous qui dit, discutes-tu avec le vent?
Qu'est-ce qu'il dit?
Discutes-tu avec le vent?
Ah oui. Est-ce que tu discutes avec le vent, c'est ça?
Alors, quelle réponse?
Non.
Alors, pourquoi est-ce que tu discutes avec ta femme?
Bon. Mais c'est faux. C'est faux. Tout est enregistré.
Le cours est enregistré. Ah, ta femme, c'est une tempête. J'ai rien dit,
moi. On voit ceux qui ont peur. C'est faux. Il y en a qui attendent le Shabbat pour parler, et encore.
Et encore, il y en a entendu. Hein, on veut pas de problème.
Non, pas du tout. C'est ton frère qui a raconté une très sympa. Le type qui avec son copain, il appelle sa femme une fée. Range-toi pour qu'il y ait de l'eau chaude quand je vais rentrer ce soir. Le type, il dit, oh, tu la maîtrises ta femme. Il fait, tu parles. Tu crois que je vais réussir à faire la vaisselle avec l'eau froide?
Donc, je reprends, Khazak. Donc, je reprends. Quand j'étudie la Torah, qu'est-ce que je donne à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que je donne à Kadosh Baruch Hu? Je donne mon moi. Je donne mon intellect. Et c'est pour ça que c'est tellement unique. C'est pour ça que l'étude de la Torah, il y a une qualité dedans qu'il n'y a pas dans la Tzedaka. Donc là, si vous voulez, on explique la qualité de l'étude de la Torah. On va continuer un petit peu. Ma Shamur Razal, page 155. Chez Talmud Torah, Keneget Kula. Le fait que les Chachamim m'ont dit que l'étude de la Torah équivaut à toutes les mitzvot, il faut décider si c'est la Tzedaka ou c'est l'étude de la Torah. C'est parce que l'étude de la Torah relève de la parole et de la pensée, qui sont les vêtements intérieurs de l'âme vitale. C'est ce que j'expliquais là pendant un quart d'heure. Les vêtements intérieurs de l'âme vitale, c'est-à-dire c'est ce qui exprime mon moi, c'est ce qui exprime ma profondeur. Lorsque j'étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe? Je raffine pas seulement les parties extérieures de moi, je raffine les parties les plus profondes de ma personne. Lorsque je casse ma tête et que j'utilise mes méninges pour essayer de comprendre ce que Akadosh Baruch Hu veut, je raffine les parties les plus raffinées en moi. Je raffine ce qu'il y a de plus fin chez moi. Av, Shema Utan, Vatz Mutan. Shel Amidot, Chesed, Gvura, Tiferet, Roulé, Lo Yachlo, Lem, Avenonim, Leafram. Aïn, Mishum, Shahara, je vais expliquer tout de suite, Shahara, Chazak, Oter, Bamidot, Mibéchabad, Mipnei, Nikatan, Shem, Agbisho, Oter, Kaidol, Yodechen. Écoutez bien la question que je vais vous poser. D'après vous, qu'est-ce qui est plus difficile? faire changer à quelqu'un de caractère ou faire changer à quelqu'un d'un point de vue. Un point de vue. Ça veut dire, imaginez une personne, il a des points de vue spécifiques, il est de droite par exemple, et vous voulez le convaincre à être de gauche ou vice versa. Ça c'est le premier scénario. Deuxième scénario, vous avez quelqu'un qui a un caractère. Il a une mida. Il est coléreux, il est généreux, il est etc. Tu veux le changer. Qu'est-ce qui est plus difficile? Est-ce que c'est plus difficile à changer
le caractère,
ou est-ce que c'est plus difficile à changer un point de vue? Pourquoi? Alors expliquez pourquoi. Pourquoi?
C'est profond. Ça fait partie du moi.
On peut avoir une on peut être coléreux et travailler sa colère.
Qu'est-ce qui fait plus partie du moi?
Le caractère.
Non, c'est faux.
Non.
Ah bon, non. C'est justement. C'est vrai que d'un certain point de vue, le caractère est ancré profondément en moi. Ça, vous avez raison. Vous avez raison. Mais d'un autre côté, le potentiel humain, le potentiel, c'est-à-dire toute la capacité de l'homme, se trouve principalement dans l'intellect, dans la façon de réfléchir. Encore une fois, c'est vrai que dans le caractère, on le retrouve même chez un bébé, chez un nourrisson, etc. Ça veut dire qu'il est ancré au fond de la personne. Mais c'est pas ça ce qui exprime la personne. Ce qui exprime la personne, le potentiel, le pouvoir de la personne, c'est principalement son intellect. C'est-à-dire, j'explique ce que je veux dire.
Alors c'est attendez, une contradiction de ce que vous avez dit.
Pas du tout, deux secondes, j'ai pas fini.
Si, parce que
Monsieur Benita, j'ai pas fini. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'en vérité, si maintenant ce soir vous allez rentrer chez vous, et vous allez vous poser la question, c'est qui moi? Alors chacun il va répondre, il a des qualités, il a des défauts, moi je suis généreux, moi je suis gentil, moi je suis ci, moi je suis ça, des traits de caractère. Et la vérité c'est que c'est comme ça qu'on se définit en général. Quand on demande aux gens définissez-vous, comment ils vont se définir? Ils vont se définir par le caractère. Je suis plutôt comme ça. D'accord? Non mais j'ai compris, mais ça veut dire, si je vous demande comment vous vous imaginez, comment vous vous regardez, qu'est-ce que vous allez répondre? Vous allez me dire voilà, je vais te répondre, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Viens là de Morazaka, il te dit c'est faux. Il te dit, c'est pas ça ton moi.
Tu peux te mentir.
C'est un animal aussi, t'as des animaux qui sont gentils, des animaux qui sont méchants. Et d'ailleurs, le caractère, tu changes pas, c'est pas ça ton moi. C'est qui ton vrai moi? Ton vrai moi, c'est ton intellect, c'est ta capacité à réfléchir. Le fait que tu réfléchis. Et c'est pour ça, vous comprenez qu'il y a des gens qui n'utilisent pas leur cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont peut-être fait un peu d'études quand ils étaient jeunes, après, depuis 20 ans jusqu'à 120 ans, il n'y a rien, on n'utilise pas le cerveau. On n'utilise pas. Tout ce qu'ils utilisent, c'est le caractère. Ils travaillent qu'avec le caractère. C'est ce que dit Zalmora Zaken. Le Morazaken te dit, on a un outil extraordinaire en nous qui s'appelle l'intellect. Et en plus, la force de cet outil, c'est que cet outil, tu peux le modifier. Contrairement au caractère que tu peux pas modifier, l'intellect, tu peux le modifier. C'est-à-dire, tu peux changer d'avis. On a vu des gens qui ont changé d'avis? Ça peut prendre des années, mais tu peux changer d'avis. On peut faire changer d'avis à quelqu'un, c'est possible. Et c'est pour ça, il te dit, voilà pourquoi l'étude de la Torah, c'est un aspect extraordinaire. Parce que, quand une personne va arriver à la fin de sa vie, on va lui poser la question, qu'est-ce que t'as fait en 120 ans? Qu'est-ce que t'as fait? Franchement, est-ce que d'après vous, il va réussir en 120 ans à changer son caractère?
Non.
Très peu. Peut-être qu'il va apprendre à travailler à son caractère, il va apprendre à l'ignorer, mais c'est très peu. Par contre, si tu compares comment il était lorsqu'il était nourrisson et lorsqu'il était après 120 ans, tout ce qu'il a appris, et ce qu'il a appris beaucoup de choses, là, il peut dire, j'ai fait quelque chose. C'est-à-dire que quand on réfléchit, l'évolution principale de l'homme se passe autour de quoi? Autour de l'intellect. C'est le fait que je réfléchis. La façon dont je réfléchis, ce à quoi je réfléchis, ce que j'emmagasine, les conclusions auxquelles j'arrive. Donc c'est mon intellect. La façon de réfléchir. Ça, c'est un acquis. Ça veut dire, tu prends avant, après. Vous savez, comme dans les pubs, là. Avant, après. Tu prends un nourrisson, d'accord, 0 ans. Tu prends un vieux monsieur, 120 ans. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui a changé entre là et là? D'accord. Et qu'est-ce qui a changé en bien? Parce que le gosse, il est né, il était pur. D'accord. Ça, la pureté, je crois pas qu'il ait à 120 ans.
Non.
Alors, qu'est-ce qui a changé en 120 ans?
La façon de réfléchir.
Le trait de caractère, je pense pas qu'il a changé son caractère. Ce qui a changé, c'est que à 120 ans, il avait un caractère et il avait zéro connaissance et zéro façon de gérer son caractère. 120 ans plus tard, d'accord. 120 ans plus tard, il a toujours le même caractère, mais il a un intellect qui lui a appris à gérer son caractère. Donc, ce qui a changé, la valeur ajoutée en 120 ans, c'est quoi? La valeur ajoutée, c'est l'intellect. C'est pour ça qu'on te dit que, finalement, c'est quoi le moi d'un homme? Le moi d'un homme, c'est son intellect. C'est ça, mon vrai moi. Et quand j'utilise mon vrai moi et que je donne un Kadosh Baruch Hu, vous comprenez? Quand on va prendre maintenant un goy, tu le prends, tu dis, quelle différence entre un goy ignorant, hein, comme ça on fait pas d'histoire, un goy ignorant, paysan, tout ce que tu veux, entre un goy qui a 0 ans et un goy qui a 120 ans? Quelle différence entre les deux? À part tout ce qu'il a mangé, tout ce qu'il a bu, etc. 120
ans. C'est toujours l'intellect.
Hein. 120 ans. Qu'est-ce que son intellect a brassé pendant 120 ans? Qu'est-ce qu'il a brassé?
Il a brassé toutes les connaissances acquises pendant toutes de 0 à 120.
Je vous parle d'un ignorant. Qu'est-ce qu'il a brassé pendant 120 ans? Il a analysé. Non, est-ce que c'est un tel qui a gagné ou un tel qui a gagné? Quelle fille vient de passer? Quel truc vient de passer? C'est ce qu'il a brassé?
Vous comprenez ma question?
Je vous pose une autre question. On va pas prendre 120 ans. Aujourd'hui, imaginez quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, qui a 60 ans. OK? Donc, il arrive à son anniversaire. 61. On lui dit, qu'est-ce qui a changé en toi entre 60 et 61? Mis à part le fait que tu as un tour de plus au compteur. Qu'est-ce qui a changé? Quelle valeur ajoutée tu as? En quoi tu es quelqu'un de différent entre avant et après? Si on n'utilise pas l'intellect, il n'y a pas de différence.
Il a peut-être réfléchi à des problématiques.
On retourne à l'intellect. Ouais, on retourne à l'intellect, obligatoirement. Et donc, c'est pour ça, je te sens la logique. Quand vous avez quelqu'un qui a étudié la Torah et qui va dire, voilà la différence, c'est que l'année dernière, je connaissais pas tant de chapitres de Tania, maintenant je connais tant de chapitres de Tania, là, on peut dire, t'as une valeur ajoutée intellectuelle. J'ai donné de mon moi à Dieu. J'ai pas seulement donné de mon argent, j'ai donné de mon moi.
Quand on étudie le Tania, on étudie la Torah.
Et c'est quoi, alors? C'est du Coran.
Celui qui met son intellect pendant 60 ans au service de la science.
C'est très bien. Il a travaillé son intellect, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il a donné son intellect à Dieu?
Non.
Il n'a pas donné son intellect à Dieu.
Il lui a donné l'intelligence.
Dieu lui a donné un intellect. Mais lui, qu'est-ce qu'il a donné à Dieu?
Il a mis au service des hommes.
Mais qu'est-ce que lui, il a donné à Dieu?
Dieu, non.
Vous comprenez? On peut passer toute sa vie à faire des mitzvot, mais ne pas donner mon moi à Dieu. Mon moi, je ne l'ai pas donné à Dieu.
S'il a donné aux hommes, ça combien, a permis aux hommes
la vérité, de vivre. On va parler un peu honnêtement. Combien de juifs vous connaissez, qui sont peut-être des juifs qui sont shomer Shabbat, qui font leur Shabbat, qui font leur mitzvot, etc. Et que probablement, le dernier cours de Torah auquel ils ont assisté, ça remonte à 30 ans. C'est tout. Et éventuellement, peut-être 5 minutes qu'ils ont écouté à la synagogue comme ça, au hasard. Non, parce que c'est ce que je veux dire. Quelle étude tu as eu? C'est ce que dit l'Admor HaZaken. Tu dis, c'est vrai que d'un côté, la tzedaka c'est le plus important, et c'est pour ça qu'on essaie beaucoup sur la tzedaka. Mais d'un autre côté, quand tu donnes la tzedaka, qu'est-ce que tu as donné? T'as pas donné ton moi. Ton moi, ton centre d'intérêt principal, ton moi, t'as pas donné à Kadosh Baruch Hu. Quand tu étudies la Torah, tu donnes ton moi à Kadosh Baruch Hu. Et ça, je peux vous dire, quand on étudie la Torah, Des fois on passe des situations. Par exemple, là, j'étudie avec mon fils. Ils ont commencé la Gemara cette année. Des situations, des fois, abracadabrantes, avec des situations et des questions et des réponses, mais des trucs qui vont jamais arriver. Et on les apprend à se casser la tête dessus. Pourquoi? Comment ça se fait? Là, c'est la réponse. Parce qu'on apprend quelqu'un à donner son moi à Kadosh Baruch Hu. Ok.
Il faut. Et si ça donne, je donne 100 mois à Kadosh Baruch Hu, mais il faut que ce mois que je donne, là tout à l'heure l'exemple que vous venez de citer, notamment à votre fils, il y a plein de trucs qu'on comprend pas pourquoi dans la Gemara, il y a des trucs vraiment. Qu'est-ce que j'apprends?
De prime abord.
Après, des choses inutiles.
Non, c'est jamais inutile.
Qui vont rien m'apporter.
Non, c'est jamais inutile.
Je vais jamais les utiliser. Je vais jamais avoir recours à.
Mais c'est ce que je dis, Monsieur Benita. C'est pas parce que vous n'allez pas l'utiliser que ça sert à rien.
Et il se pourrait aussi que tu utilises.
Vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Oui, enfin, je comprends, mais si j'étudie quelque chose.
Vous avez aujourd'hui en France, par exemple, le CNRS. D'accord? Centre national de recherche scientifique. D'accord? Le CNRS, dans le CNRS, il y a, je crois, des milliers de chercheurs. D'accord? Bon. Maintenant, sur les milliers de chercheurs qu'il y a, combien de découvertes il y a, on va dire, en 10 ans? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Alors, vous avez celui qui réfléchit pragmatiquement comme vous, qui dit, écoute,
c'est pas rentable.
Tu emploies 1000 personnes, et en plus, tu les emploies pas, c'est pas des petites payes. C'est des grosses têtes. Ça veut dire, je sais pas combien ils sont payés, mais en tout cas, ils sont pas payés le SMIC. Le rendement, il est zéro, il est pratiquement nul.
C'est même pas un rendement de 1%.
Écoutez bien. Alors, il y a ceux qui pensent, non mais c'est très important ça. Il y a ceux qui pensent que c'est pas utile. Il dit, le but de la recherche, c'est de trouver. Si on ne trouve pas, il faut arrêter de chercher. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est un scientifique qui m'a expliqué ça. Qu'en vérité, dans la science, et j'adhère beaucoup à ça, parce que dans la Torah, c'est exactement la même chose. La recherche, c'est déjà un but. Le fait de rechercher, c'est déjà un but. Si on trouve, c'est encore mieux.
C'est bien ça.
La recherche, c'est déjà un but en soi.
Ah oui. Mais si on n'avait pas cherché, on n'aurait pas trouvé.
C'est comme une fois quelqu'un m'a posé la question.
Pas, elle trouve pas.
Eh oui, mais non, mais j'ai compris. Quelqu'un m'a posé une fois la question. Il m'a dit, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est mieux? D'avoir des questions ou d'avoir des réponses? Qu'est-ce que répond le juif?
On ne peut pas avoir de réponse sur la question.
Mais si vous réfléchissez comme M. Benita, enfin, comme vous voulez dire, tu dis, je cherche une question pour avoir une réponse. On te dit non.
Il faut commencer par la question.
Il faut poser la question. D'abord, après, tu auras une réponse, tu n'auras pas une autre réponse, c'est une autre question.
Tu verras.
Une fois, il y a quelqu'un qui est venu poser une question à un rave. Très grande question sur la Gemara. Contradiction entre deux Gemarot, etc. Il est venu poser la question au Gaon de Rogatchov. Il a posé la question. Le Gaon de Rogatchov, il a dit, ta question, c'est Tosfot dans ma Sechet Shabbat, telle page qui répond. Alors lui, bon, il connaissait cette Gemara, mais il se rappelait pas que ça répondait à cette question. Donc il est rentré chez lui à la maison, il a ouvert la Gemara à la page qu'on lui a dit, il a ouvert le Tosfot qu'on lui a dit. Et voit que le Tosfot, il parle pas de ça. Il parle aucun rapport, c'est pas le même sujet. Vas-y, ça se fait pas, ça fait un peu remarque de revenir chez le rave, de dire j'ai pas compris. En plus, lui, il se prenait pour, bon. Donc, il revoit deux jours, il a passé, il repasse toute la page, il repasse les pages d'avant, les pages d'après. Y a rien, c'est pas le même sujet. Ça a rien à voir. Alors, deux jours plus tard, il craque, il revoit voir le gars de Rogatchov. Il dit, écoutez, Rav, avec tout le respect que je vous dois, peut-être que je suis bête, mais c'est pas possible. Non, j'ai pas trouvé. je trouve pas le Tosfot, il parle pas de ça. Alors, Rav, je vais t'expliquer c'est quoi la réponse. La réponse, c'est que là-bas, dans le Tosfot que je te montrais, Tosfot, il pose une question. Il pose une question. Et il répond pas. Et ça n'a pas empêché d'avoir un Tosfot après qui pose une autre question. Pourtant, t'aurais pu dire, hein, tu poses une question, t'es bloqué, t'arrives pas à avancer. T'as une question. Bon, très bien. C'est pas parce que t'as pas de réponse que t'as pas de réponse. Eh ben, t'as pas de réponse. T'as posé une question, c'est bien, on va avancer maintenant. Et le message que je voulais te montrer avec ce Tosfot, qui a rien à voir avec ta question, c'est de te montrer que même si Tosfot a une question très très forte, qui bloquait toute la Gemara, c'est pas parce qu'il était bloqué qu'il a dit, bon, on arrête tout, allez, on ferme le livre. Bon, on n'a pas compris ça, on va aller à la suite. Parce qu'un juif, il doit comprendre qu'il faut poser des questions. D'ailleurs, qu'est-ce que fait l'enfant le soir du CDR? Qu'est-ce qu'il pose l'enfant le soir du CDR?
Il pose des questions.
Est-ce que nous, on lui répond aux questions?
Non.
Normalement, on dit que dans le soir du CDR, dans la Haggadah, les réponses sont cachées. Bon, franchement, votre enfant, posez-lui la question. Tiens, quand vous rentrez chez vous, est-ce que tu as eu la réponse à ta question? Posez-lui la question. Voilà. Le soir du CDR, Afikoman, d'accord? Avec Afikoman, tu dis, chérie, t'as posé 4 questions. Est-ce que tu as eu la réponse aux 4 questions? Il va dire, non, je sais pas. Après, t'as posé 4 questions. C'est typiquement juif, ça. S'habituer à poser une question, même si on n'a pas de réponse. Pourquoi? Parce que la question, ça prouve qu'on recherche. Rechercher, c'est déjà un but en soi. C'est trouver des réponses, c'est encore mieux. Bien sûr, il faut chercher des réponses. Mais chercher, c'est déjà un but en soi. Et c'est ce qu'il te dit ici. De la même façon, quand j'étudie la Torah, quand j'étudie la Torah pour connaître une halakha, ça c'est quand je cherche une réponse. Mais c'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que parle le CNRS non plus. Le CNRS, ils sont pas en train de chercher des réponses. Ils sont en train d'abord de chercher. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle des chercheurs, pas des trouveurs, des chercheurs. Parce que leur but, c'est de chercher. Et avec tout ce qu'ils vont chercher, certainement qu'ils vont trouver des choses, mais le but, c'est de chercher. Il faut avoir de la recherche. La recherche. Après, il y a le développement. Recherche. Mais d'abord, la recherche. Il faut toujours rechercher. Et c'est ça, c'est exactement la même chose que je vous montrais ici par rapport au limud de Torah, par rapport à l'étude de la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, même si on n'a pas toujours tout compris, des fois, quelqu'un va venir à un cours de Torah, il n'a pas tout compris. Il va dire, j'ai perdu mon temps. Et j'ai perdu mon temps. Je suis venu à un cours, j'ai passé 1h15, j'ai compris 5 minutes. J'ai perdu mon temps. Et pendant le reste du temps, j'essayais de comprendre ce qu'il racontait. J'ai perdu mon temps. C'est là qu'on te dit pas du tout. On te dit pendant cette 1h15 que tu étais au cours, tu as donné ton moi. Ça veut dire que ton cerveau, t'as essayé de le concentrer pour comprendre. Donc ça même, c'est déjà un but. Le fait même que tu cherches à comprendre, même si à la fin t'arrives pas à révéler, t'arrives pas à comprendre, t'arrives pas à trouver, le fait même de chercher, c'est déjà un but en soi. Et ça, c'est la raison pour laquelle on étudie la Torah. Pour montrer à Kadosh Baruch Hu, nous, on te cherche. Nous, on essaie de comprendre ce que tu veux. On essaie de comprendre. Et on essaye, on gratte, on passe, on repasse. Même si on n'a pas réussi, même si on va réussir à 5%, à 10%, à 15%, c'est pas grave. Nous, on cherche. C'est la recherche. Dans la Torah, on est obligé à rechercher. Combien de fois ça nous arrive dans la Gemara, hein? Tu finis une page de Gemara, on te pose une question, et on retourne dans tous les sens. Et à la fin, toute la question est basée sur une contradiction entre deux trucs, etc. Et à la fin, on dit, bah, finalement, tu sais quoi, la contradiction n'a pas lieu d'être parce qu'en vérité, il y avait une des braïtotes, vérité qui tenait pas, donc du coup, on a tout enlevé. Il dit, mais attends, tu te fous de moi ou quoi?
On arrive ça.
Ah oui, tu te moques de moi ou quoi, là? Mais arrachez-la, cette page. Vous savez, les prochains, ils se font pas avoir. Et le pire, c'est qu'après, tu repasses et tu révises, tu vois. Hein, tu recommences, il y avait une question, etc. Et tu sais, comme si dans la question, tu sais pas qu'après, on va repousser, tu vois. À quoi ça sert? C'est quoi ces histoires? Parce qu'encore une fois, le but, c'est pas forcément d'avoir le résultat. Le résultat que tu veux aujourd'hui, tu prends une calculette, tu fais la calculette. Là, tu prends la calculette, tu fais
oui, c'est la méthode.
C'est la méthode. La méthode, la recherche. Tu veux des résultats, il y a des résultats aujourd'hui. C'est pas le résultat qu'on cherche, c'est la recherche. Et c'est, oui?
Quand on fait le chemin Israël, oui. On dit, on donne tout son cœur, tout son âme.
Oui, son cœur, son âme. Déjà, mais pas sa tête. Pas ma tête.
C'est
pas ma tête. Dans le schéma, c'est pas ma tête. Dans le schéma, c'est pas ma tête qui parle.
Je mets les téfilines, je donne pas ma tête.
Non.
Sur la tête.
Je le pose sur ma tête. C'est un support. Mais est-ce que quand je mets les téfilines, je donne mon moi, je donne mon intellect? Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qui fait Charles Benita? C'est pas vos yeux. Un chien aussi, il a des yeux. Un chien aussi, il a une bouche. Un chien aussi, il a un nez. Un chien aussi, il a un cœur. Excusez-moi de la comparaison. Qu'est-ce qui fait Monsieur Benita? Qu'est-ce qui fait Monsieur Benita? C'est votre cerveau? Est-ce que quand j'ai mis les filets, j'ai donné mon cerveau à Dieu? Non, je ne l'ai pas donné. Par contre, lorsque je me casse la tête pour essayer de comprendre ce que Dieu y veut alors que ça ne m'intéresse pas, là je donne mon cerveau à Dieu. Je donne mon moi à Dieu. Ça c'est unique dans l'étude de la Torah. Donc voilà pourquoi, d'un côté la tzedaka, c'est vrai que dans la tzedaka je donne tout mon être, parce que pour gagner cet argent, j'ai travaillé beaucoup avec tout mon corps, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ce qu'il y a de particulier dans l'étude de la Torah, c'est que je donne mon moi.
Et quand je lis la prière, par exemple, deux têtes sans le livre. Je donne pas mon cerveau, c'est pas.
Lorsque
je fais la tefila deux têtes sans le livre.
Non, pas du tout. Un chien, il a pas de mémoire.
Il a de la mémoire.
Oui, mais pas pareil.
Pourquoi pas pareil? Qu'est-ce que vous savez qu'il est pas capable de répéter une phrase?
Mais là, c'est pas une phrase, c'est toute une prière.
Mais alors que ça change. Peut-être qu'il est capable de. Un chien, il est capable de vous reprendre une roue, de vous reprendre, d'avoir une mémoire très très loin. Vous savez, les animaux, la mémoire qu'ils ont, les animaux, ils sont capables de retrouver à des milliers de kilomètres le chemin pour rentrer chez leur propriétaire. Vous savez ça?
Ouais.
La mémoire qu'ils ont, les animaux? Une mémoire que même nous, les hommes, on n'a pas. On n'a même pas idée ce que c'est. Vous savez qu'ils ont fait des essais. Les animaux comme ça. Je crois que je sais pas si c'était un chien ou je sais pas quel animal.
Oui,
c'était
abandonné.
Ils ont fait des tests, ils les ont pris, ils les ont éloignés. Bien sûr, à condition qu'ils voient comment on les éloigne, ils voient la route. Ils sont revenus, ils ont retrouvé leur propriétaire. Comment c'est possible? C'est pas la mémoire ça?
Les pigeons, ils ont un GPS.
Oui. Voilà.
Je sais qu'ils sourient, ils ont fait un grand labyrinthe. Et tu vois la souris, elle retrouve son
et un chat, tu le jettes à 800 km, il est dû retourner à la maison avant toi.
Il a le GPS.
Un chat. Va comprendre qui.
Parce qu'il a pris
tout le reste.
Va comprendre Charles, on dit.
Va comprendre Charles.
Ouais, mais ça dépend.
Et la question, elle est bête, ça, c'est une question. C'est une question. Va comprendre Charles. C'est une question. C'est la première question que je pose. Il va comprendre.
Voilà.
Il n'y a pas de réponse. Il pose la question quand même.
Non. Le moi, c'est l'intellect.
Tu ne peux pas répondre, Charles.
Non, le dire, non, encore une fois. Le moi, c'est ce qu'il y a de plus profond en moi. Ben oui, c'est ce que je fais.
C'est pas genre, je le dis, je parle, mais je le dis, mais je le donne pas.
Quand vous venez à un cours de Torah maintenant, ce soir, vous aurez pu rester chez vous, en train de regarder, je sais pas ce qu'il y a à la télé ce soir.
Ah, il y a un beau film sur la 6. Ah ouais. Qui c'est qui m'a parlé de ça? Je sais pas, moi,
un beau film sur la 6. Et c'est clair que votre moi, il aurait préféré rester assis à regarder le film.
Chez soi.
Chez moi? Quand je viens au cours de Torah, qu'est-ce que je fais? J'ai mon moi, il aurait préféré rester assis et regarder un film au chaud. Je vais donner mon moi à Dieu. Mais non, c'est pas seulement. Là, voilà. Tu vois, celui qui va venir au cours de Torah, qui fait un effort avec ses pieds. Ça veut dire qu'il a fait un effort, il est marché, il est venu. Mais quand il vient, il va manger des pistaches et des chips, il va même pas essayer de découper de suivre. Ça l'intéresse pas. C'est déjà bien, il est venu. Srar alira. La Mishnah dit celui-là, il est srar alira. Il a le mérite d'avoir marché pour venir. Mais après, c'est celui qui a un autre niveau, comme nous tous, je pense.
Alors, il a étudié la Torah, celui-là, ou là?
Non, il n'a pas étudié.
Non, il vient pour la cacahuète.
Mais il est venu, c'est déjà bien, il est venu.
Ah non, mais
il est venu.
Il a étudié la Torah.
Il est venu, il est venu au cours. est venu.
Donc
c'est bien.
Je vais manger maintenant.
Monsieur David, assis la moitié.
Je vais reposer ma chaise.
Non, mange, mange.
Non, arrête, arrête.
Non, non, finis l'assiette. Non,
non,
mais c'est bien. Sraralicha aussi.
Sraralicha, c'est bien. Sraralicha, c'est bien. Mais on te dit, quand tu as fait Sraralicha, c'est pas une qualité humaine. Un chien aussi, il peut marcher.
Voilà, c'est ça.
Déjà, on est
inquiet. Ah,
ça mais le mieux du mieux, ensuite, c'est de répéter ce que tu as écouté.
Alors ça c'est plus dur. Ça c'est plus dur. Ça c'est quand on a trouvé.
C'est quand tu es au circuit.
Pour l'instant on cherche.
C'est pas grave. Même si c'était pas grave de retrouver que t'as cherché, c'est déjà bien de chercher. Le fait de te casser la tête pour essayer de comprendre ce que le texte te raconte, c'est déjà un but en soi. Après t'as compris, c'est mieux.
Donc un animal il a plus de chances de réussir de chercher. Quand il va chercher, il arrive mieux que nous.
Oui, parce que c'est l'action tout ça. C'est l'action. Encore. Donc vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire en d'autres termes ce qu'on comprend d'ici, c'est que moi je vous dis honnêtement. Quand on fait un cours, par exemple, de Gemara, je ne sais pas combien pourcent de personnes comprennent. Il y a 100% le cours.
Ils sont largués.
Il y a beaucoup qui sont largués.
On n'a jamais fait.
D'accord. On n'a jamais fait.
Dimanche matin.
Ah oui.
Ah ouais, mais...
On dimanche matin.
Ah, c'est dimanche matin.
Qu'est-ce qu'il y a dimanche matin?
C'est la messe.
Non, c'est à 11h, la messe.
C'est à quelle heure le programme juif, là, de José Eisenberg?
9h30.
José Eisenberg. José.
Sur ce juif. Donc, hein? Je sais pas. Non, tu me demandes?
Non, mais merde.
Ah, tu me demandes ou tu me dis?
C'est à 11h.
Est-ce que c'est intéressant? Je sais rien.
Il t'a dit,
c'est une recherche ou une trouvaille?
La Gemara, si c'est intéressant ou c'est.
Si c'est intéressant.
Non, non, c'est pas la Gemara.
La télé.
La télé, oui.
C'est pas dans la Gemara, on dit le chor, il s'est tombé dans un trou, comme un truc, à qui il appartient, c'est celui qui a le, qui l'a, qui a le tiré, c'est celui qui a mis la main dessus le premier, c'est lui le propriétaire, et s'il est tombé, s'il est tombé pendant qu'on lui a prêté.
Vous avez des bons souvenirs, apparemment. En fait, tous les dimanches matin.
Jamais tu trouves la réponse. Faut jamais trouver de réponse.
Ok, donc ce que je vous montrer par ici, ce que je vous montrer par ici, c'est que voilà la particularité de l'étude de la Torah, c'est qu'on se casse la tête pour essayer de comprendre. On va continuer. Zot ve'odacheret ve'hi aolal kulan. Je suis en bas de la page 56. Zot ve'odacheret. Encore autre chose. Encore une autre qualité dans l'étude de la Torah sur les autres, sur toutes les autres mitzvot. De malati sektem ou Torah kolam mitzvot. Alpi, ma shekatouv lel beshema tikkunim. Selon ce qui est écrit plus haut, dans le chapitre 23, au nom du tikkun et zohar, des remar pikudim remar revarim des malka. Que les 248 mitzvot sont comparés aux 248 membres du roi. Kmo, bah, damatron der machal en, revetimion klavem nachet chum remar revarab. Les gabar hayout chum mochin, choasech, elle a mit ralek, le gabar brinat rabat, je vais expliquer tout de suite. Kachamamash, derech machal, le havdil, bervavot avdolot anketz, beharat orensov, orchum, mitlachot, mizot masiot, les gabar orat orensov, chum brinat rabat, chum chumat ator. Je vais expliquer tout de suite. Celui-là, c'est très simple. On a expliqué, chapitre 23, au nom du Zohar, que les 248 mitzvot sont comparés aux 248 membres du corps. Et donc, c'est comme si on disait qu'il y avait 248 membres d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je vais vous poser une question. Dans votre corps, il y a plusieurs membres. Quel est, d'après vous, le membre le plus important de votre corps? Le membre le plus important de votre corps?
Le membre.
Tout est important. Parce que si on pouvait se passer d'un membre, il y aurait eu 247, il n'y aurait pas eu 248. Il n'y a rien qui est en trop. Il n'y a rien qui est superflu. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a rien qui est superflu. Mais si on pose la question, quel est le plus important, ou plutôt je modifie un peu la question, dans quel membre du corps il y a le plus d'énergie qui se trouve? C'est le cerveau. De très 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 loin. Ça veut dire que, si, excusez-moi, si je vais donner un exemple avec la consommation. Vous savez, vous avez aujourd'hui dans les téléphones Android, par exemple, il vous dit, voilà, ta batterie, d'accord, elle a consommé, bonsoir, ta batterie, elle a consommé sur les dernières 24 heures, l'écran, elle a consommé tant, l'écran, c'est le plus gros consommateur, l'écran, il a consommé tant, le GPS, il a consommé tant, telle application, elle a consommé tant, telle application, elle a consommé tant. Donc, il y a des consommateurs, c'est comme ça. Il y a des gens chez qui Facebook, c'est le plus gros consommateur. D'autres, c'est qui WhatsApp, d'autres, c'est qui, etc. Mmh. Bon, très bien. D'accord. Alors, je vous pose une question. D'après vous, si on applique ça dans le corps humain, quel est le membre le plus consommateur d'énergie? C'est le cerveau. C'est très, 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 très long. Il dépasse tout le monde. En énergie.
C'est celui qui commande tous les membres.
C'est pas seulement pour ça.
Non, mais tu réponds.
Parce qu'il est tout le temps en train de consommer. Même quand on dort, il s'arrête pas. Même quand on dort, il s'arrête pas. Tous les autres membres, ils se calment. Il se calme, c'est bien. Oui, c'est pas seulement qu'il donne des ordres. C'est qu'il est constamment en mouvement. Mouvement. Il s'arrête pas.
C'est comme un truc, un noyau nucléaire.
Comme un noyau nucléaire, exactement. Il s'arrête pas, il bouge pas.
C'est comme la comparaison avec la recherche.
Exactement. C'est qu'il dit ici. Tu dis si tu compares, étant donné qu'on a expliqué que les 248 mitzvot sont comparés aux 248 membres du roi, quelle est la mitzvah qui correspond au cerveau? C'est la mitzvah d'étudier la Torah.
C'est évident.
La tzaka, par exemple. Bon, la tzaka, ça va correspondre peut-être à la main droite, peut-être, ouais. Je sais pas. Je sais pas quel membre. Et 248, il y en a plein, là, je sais pas laquelle. Mais la mitzvah qui correspond au cerveau, c'est laquelle? C'est la mitzvah d'étudier la Torah. Et de la même façon que dans le corps humain, on voit bien que le cerveau, c'est le membre qui génère et qui déploie et qui utilise le plus d'énergie. De la même façon par rapport à Kadosh Baruch Hu, la mitzvah dans laquelle on met le plus d'énergie, c'est quoi? C'est le mitzvah d'étudier la Torah. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si on prend toutes les mitzvot et qu'on prend en ressources, voilà, par exemple, 2000 ans, 3300 ans d'histoire juive, d'accord? Sur les 3300 ans, si on devrait savoir, on va faire une application Android qui va nous dire, ou iPhone, hein, qui va nous dire combien de ressources ont été utilisées pour l'étude de la Torah et combien pour les tefillin. C'est clair que l'étude de la Torah, elle va utiliser beaucoup plus que la moitié. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué pourquoi. Parce que de la même façon que dans le cerveau humain, c'est comme ça, par rapport à Kadosh Baruch Hu...
Ça veut dire
que
c'est elle qui consomme le plus d'énergie.
Bien sûr. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est la mitzvah la plus puissante. C'est la mitzvah la plus puissante dans le sens, c'est la mitzvah qui a le plus d'énergie. Bon. Maintenant...
C'est ce qui maintient le monde.
C'est ce qui maintient le monde, c'est vrai. Maintenant, il y a une question qu'on devrait se poser. Quand j'étudie la Torah, Monsieur Benita, tout à l'heure, il a parlé... D'un taureau, rappelez-moi, M. Benita.
Le chor.
Oui, alors, qu'est-ce qu'il a fait, le taureau?
Il est encore.
Non, c'est quand...
Non, mais il est encore né.
Il a la recherche de son propriétaire encore.
D'accord. Il a dit
quoi, hein? Ouais. La vache de M. Seguin, qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle gambade.
Non, sérieusement. Quand vous prenez la Gemara, de quoi vous allez traiter? Vous allez traiter finalement de choses matérielles.
C'est des cas classiques,
des cas de la vie active, des cas de la vie de tous les jours. Alors tu poses une question, tu dis, mais c'est ça la Torah de Dieu? Ça veut dire qu'au Gan Eden, ils sont en train de parler de vaches, et le taureau qui a encorné une vache, et qui est tombé dans un trou, etc. Ils ont que ça à parler de ça en haut?
En fait, moi, si je peux me permettre,
oui.
La Gemara, c'est en fait toute la chorma, comment fonctionne Hachem. C'est la chorma d'Hachem.
Mais je vous pose la question. Je dis, quand on étudie la Gemara, vous voyez qu'on vous parle des choses terre à terre. On vous parle d'un taureau, on vous parle d'un bœuf, on parle, etc. Vous pouvez comprendre.
Hachem, il a traité tous les cas.
De notre vie.
Voilà.
Mais en haut, au Gan Eden, comment on étudie la Gemara?
Comment?
En haut, ils étudient la Gemara en haut aussi? Au Gan Eden. Bah oui, ils font quoi? Ils n'ont pas un autre programme, hein, c'est le même programme pour tout le monde. Hein, ils font quoi, oh? Alors, c'est la question que je pose. On n'aurait pas expliqué que la Torah, hein, c'est très très puissant parce qu'il y a beaucoup d'énergie, parce qu'on met tout mon moi. Mais tu dis finalement, c'est quoi la Torah? La Torah, tu étudies quelque chose de concret, tu étudies quelque chose de matériel, de terre à terre. Alors, c'est ça ce que Dieu te donne? Alors, en fait, la clé de la réponse, on l'avait utilisé dans le chapitre 5. Vous allez comprendre d'où je viens d'arriver. On dit que la Torah est comparée à l'eau. Pourquoi la Torah est comparée à l'eau? Pourquoi la Torah est comparée à l'eau? Qu'est-ce qu'il y a de particulier?
On ne peut rien faire sans l'eau.
D'accord, mais à part ça, pourquoi la Torah est comparée à l'eau? La Torah est comparée à l'eau. Parce que l'eau, elle coule. Hazak. L'eau, elle coule du haut vers le bas. C'est la même chose. On te dit, dans la Torah, c'est des concepts. Alors, c'est un concept qui va s'adapter à l'endroit où il se trouve. Donc, ici-bas, ce concept, ça va être un taureau, ça va être un bœuf, ça va être un âne. Parce que c'est un concept qui était adapté ici-bas. À notre réalité. Mais ce concept, en vérité, il existe aussi chez Akadosh Baruch Hu. Je vais vous donner un exemple que je vais vous donner. Par exemple, vous avez, actuellement, dans la Yeshiva Trabat, on étudie la Maseret Kiddushin, le traité Kiddushin. Bon, très bien. Traité Kiddushin, une des Mishnah du traité Kiddushin, au début, on te dit que Aisha Niknet Bishloshat Rachim, une femme est acquise, entre guillemets, ça veut dire donc le mariage, d'accord, par trois moyens. C'est quoi les trois moyens? Bekesef, Bishtar ou Bebia. Avec l'argent, avec le contrat, et avec les relations. Kesef, Shtar, Bia. Quand tu lis ça, tu dis, bon, nous on comprend en tant qu'homme, on comprend l'argent, c'est ce que c'est, d'accord, on va mettre la bague, on a de l'argent, le contrat, c'est la Ketouba, et les relations, c'est les relations. Mais en haut, Gan Eden, comment ils étudient cette Mishnah? Alors que là-bas, il n'y a pas d'homme, pas de femme, pas de, etc. Et c'est là que l'Admor HaZaken explique dans un commentaire, il dit qu'en vérité, toute la Torah, c'est des concepts. C'est un concept qui nous a été adapté chez nous, mais c'est un concept qui marche aussi chez Akadosh Baruch Hu. Il explique comme ça, c'est très simple. Il dit, regardez. Prenons par exemple cette Mishnah. Voilà.
Alors quel est l'équivalent là?
Alors attendez, j'ai pas donné le bâton pour faire frapper. L'Admor HaZaken dit, voilà comment on étudie, alors je n'y étais pas, hein, mais voilà comment on étudie cette Mishnah dans la Yeshiva du ciel. Aïcha. C'est qui la femme? La femme, c'est Israël. C'est qui le mari? C'est Dieu. Donc la question qu'on se pose au ciel, c'est pas comment un homme va se marier avec une femme. Là, en haut, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. La question qu'on se pose, c'est comment la femme, comment l'assemblée d'Israël, comment Israël va être acquis par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu prendrait Israël? Pourquoi Akadosh Baruch Hu prendrait Israël? De la même façon que tu poses la question, pourquoi un homme, nous on pose pourquoi un homme prendrait une femme, comment il va le faire? La question qu'on se pose en haut, c'est comment Dieu il va prendre Israël. Alors, dans la Yeshiva du ciel, on répond que c'est par trois moyens. Kesef, Shtar, Bia.
Argent.
Attendez. Kesef, l'argent. Quoi l'argent? Quoi l'argent? Non. Non. Kesef en hébreu, ça veut dire l'argent, ça veut dire aussi l'envie. L'amour, l'envie. On dit comment Dieu il attire ses enfants, comment Dieu il s'attire avec l'assemblée d'Israël? Mais Kesef, par l'amour, parce qu'il nous aime. Deuxième, c'est Bishtar. Le contrat. C'est quoi le contrat qu'il y a entre Dieu et la Torah? C'est la Torah. Et c'est quoi Bia? Bien, c'est les relations. C'est quand toi, tu fais ce qu'il veut, tu fais ce que Kadosh Baruch Hu te demande.
J'épouse.
Voilà comment on épouse Akadosh, exactement. On épouse Akadosh Baruch Hu. Voilà comment on étudie dans la Yeshiva du ciel cette Mishnah. Vous voyez, donc, moi, nous, ici-bas, quand on étudie cette Mishnah, on l'étudie à l'école. Ben, on voit, voilà, une Mishnah, ben, c'était un homme et une femme, etc. Voilà, Prouta, bon, voilà, etc. C'est terre à terre grave. Mais dans la Yeshiva du ciel, on étudie la même chose, mais on étudie le concept. C'est un concept en vérité. C'est-à-dire là, il y avait une femme, un homme, d'accord. Une femme, un homme, d'accord? Trois méthodes, voilà, c'est tout. Donc de la même façon, le même concept en haut, au lieu de parler d'une femme et d'un homme, ça va être autre chose, d'accord? Et c'est un concept. Ce que je veux montrer par ici.
Sauf que on laissait le taureau dans la Yeshiva du ciel.
Sauf qu'on n'est pas du tout parfait Israël.
Et qu'est-ce qu'on
Et s'il a trébuché.
Quand il y a un désaccord, quand il y a.
Non mais c'est un exemple que je donnais.
Oui, j'ai compris, mais. Quand il divorce de quelqu'un, il divorce pas d'une personne, il divorce de l'assemblée.
Alors j'ai expliqué, Dieu il peut pas divorcer de nous,
parce que
il peut pas, parce qu'il y a une halakha qui dit que si un homme il s'est marié avec une femme lorsqu'elle était normale et qu'elle est devenue folle, il peut plus divorcer à vie.
J'ai rien compris là.
Si vous vous mariez avec une femme, votre femme, d'accord, bon, vous mariez avec une femme, elle est normale, et après elle devient folle.
T'as pas le droit de divorcer.
On peut pas divorcer.
Donc c'est l'inverse.
Mais c'est quoi devenir folle?
Non, pas du tout. Non, on peut rien faire.
On peut pas la tuer.
Alors, la même façon avec Dieu. Dieu, quand on s'est marié avec Dieu, on était normal. On était pratiquant. Après, on est devenu fou. Oui. Il peut rien faire, il peut pas nous divorcer.
C'est pareil,
même concept.
Oui, mais d'un autre côté, on dit que c'est Dieu qui nous a choisis.
Ah, Atabeh Hartabeh Mikol Amim. Le cadeau empoisonné.
C'était nous aussi qu'on avait choisi aussi. C'est nous aussi qu'on a choisi aussi.
Encore.
Et vous avez marqué cette phrase, Atabeh Hartabeh Mikol Amim. C'est plus le Maroc, je crois, que vous avez marqué.
Non, encore que c'est cette affaire de Bahartanou, comme vous dites, elle est un petit peu...
La ressortie, c'est la phrase la plus populaire chez lui.
Non, elle est, parce que d'un côté, on dit, dans le désert, c'est Dieu, il a proposé la Torah aux 70 nations,
les 70 nations ont refusé, et seul le peuple hébreu, il a accepté. Donc c'est le peuple hébreu qui a accepté la Torah, avec qui a accepté Dieu. Et d'un autre côté, quand on enlève le Sefer Torah, on dit, « Vezot ha-Torah shamoshé lifni ben Israël, Torah temet natan lanu, asher bahar banu. » Qui nous... Alors, d'un côté, il dit, c'est nous qui l'avons choisi, et là, on dit, c'est lui qui nous a choisi. Alors, c'est où la vérité?
Bah, peut-être lui, moi, choisi, moi, j'ai choisi. Hein? Peut-être c'est les deux. C'est les deux, non?
C'est ça les questions qui commencent. C'est la première question qui se commence. Et là, ça va être arrodé.
Pardon?
Quand vous êtes marié,
oui,
la question est belle.
Qui a choisi qui? Ben c'est ma femme qui m'a choisi.
T'en es même pas sûr.
Je vais niquer un petit verre.
Allez.
T'es pas sûr.
Bon, on y va.
Pas sûr.
Donc, si on résume ce qu'on a expliqué, je vais accélérer un petit peu là. Ce qu'on résume. D'un côté, on a expliqué que la mitzvah la plus importante, c'est la mitzvah de la tzedaka. Mais d'un autre côté, la mitzvah qui exprime le plus le moi, mon moi, ma personne, la mitzvah dans laquelle j'essaye de rechercher Dieu, même si je trouve pas, c'est pas grave. La mitzvah dans laquelle j'exprime le plus mon moi, mon intellect, ma différence entre moi et un animal, c'est quoi? C'est la mitzvah de l'étude de la Torah, qui en plus, l'étude de la Torah est comparée au cerveau, qu'on a expliqué, parce que les mitzvahs sont comparés aux membres, et donc, dans les membres, le membre spirituel du cerveau correspond à l'étude de la Torah. Donc ça veut dire que c'est la mitzvah dans laquelle on déploie le plus d'énergie. Et même si moi je dis oui, mais finalement j'apprends des choses matérielles, qu'est-ce qui se passe? C'est pas kadosh ça. On te dit bien sûr c'est kadosh. Toi tu crois que c'est pas kadosh parce que c'est habillé dans un concept matériel. Mais le concept qu'il y a derrière, c'est un concept qui est très 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 kadosh. Et c'est ça la volonté de kadosh. En gros, Dieu il veut qu'on se casse la tête pour essayer de penser que si Reuven il va dire ça, et Shimon il va dire ça, la halakha sera comme ça. Même si concrètement on sait que ce cas n'arrivera jamais, parce que c'est un cas qui n'arrivera jamais, c'est pas grave. Du fait même que je me casse la tête à savoir qu'est-ce que Dieu dirait si Monsieur Reuven ferait ça et Monsieur Shimon ferait ça, qu'est-ce que Dieu dirait? Moi, j'ai jamais fait ça, moi. C'est pas grave.
Pour se casser la tête, on n'aura jamais la réponse. Hein.
Si, on a des bien sûr, on a la réponse. On a des réponses.
Bah, que Dieu me répond pas. Okay. Hein. Quand je fais quelque chose là.
Maintenant, t'as pas le bon numéro. Maintenant, on va essayer.
Que le 118.
On n'a pas le bon opérateur.
Bon, maintenant, on va essayer de. Donc si vous voyez bien, concrètement, on a un petit peu une contradiction ici. C'est pas une contradiction, mais presque. D'un côté, on nous dit que la mitzvah la plus importante, c'est la mitzvah de la tzedaka. Et d'un autre côté, depuis, ça fait 3/4 d'heure qu'on n'arrête pas de mariner sur l'étude de l'importance de l'étude de la Torah. Alors moi, je pose la question, je dis maintenant, il faut décider. Alors, qu'est-ce qui est plus important? L'étude de la Torah ou la tzedaka?
Ben, c'était ma question de tout à l'heure, on m'avait pas laissé la poser.
C'est Benita, si on compte le nombre de questions qui ont été posées ce soir.
Oui, ah, c'est exceptionnel. Hein.
Non, mais si je compte combien de questions me posait M. Benita.
Ah ouais, mais c'est ça l'objet du cours. Hein, si. Ben, je viens pas pour manger les cacahuètes.
On va faire les temps de parole comme les politiques.
C'est normal qu'on
va mettre des compteurs.
Talmud Torah, qu'elle est Kulam.
Si on n'anime pas le cours.
Ah non, vous avez raison. Falpiken quand même. Je suis à la page 158. L'étude du 29 Adar. Allez, Rabotin, on va accélérer un petit peu. Encore quelques minutes. Falpiken quand même. Rouhaz al-Khamim ont dit. Lo Amidrash Ikar et la Maasé. Avec toute la qualité de la Torah qu'on a expliquée, ça n'a pas empêché les Khamim de dire que Lo Amidrash Ikar, ce n'est pas l'étude qui est l'essentiel, et la Maasé, c'est seulement l'action. Ça veut dire que même si l'étude est très, 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 très importante, mais au final, page 158 en bas, au final, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le maasé, l'action. Ve'ayom la sotam. Aujourd'hui, il faut agir. C'est demain qu'on va recevoir le salaire. Et d'ailleurs, les chachamim m'ont dit, c'est comme ça que c'était tranché dans la lacha. Mais vaklim talmud Torah le kiyum mitzvah maasit. On peut annuler l'étude de la Torah pour accomplir une mitzvah positive. Je donne un exemple. Imaginez par exemple que vous avez trouvé un objet dans la rue. Vous avez une mitzvah. Et que sur cet objet, il y a des signes distinctifs. Vous avez une mitzvah. C'est quoi cette mitzvah? Ashavat Aveda. Rendre la perte à son propriétaire. Donc déjà, le propriétaire, peut-être qu'il y a un nom dessus, donc vous allez le rendre à ce nom. Peut-être qu'il n'y a pas de nom, donc il y a des signes. Donc il faut mettre une annonce, etc. Ça prend du temps tout ça. Maintenant, moi, du temps, j'en ai pas profusion du temps. Pendant ce temps-là, je voulais étudier la Torah. Alors, écoutez la question qui a été posée dans la Gemara. Imaginez que je suis parti, voilà, j'ai une journée, je compte étudier la Torah, je suis parti un matin tranquillement, je reviens de la synagogue, je vais étudier la Torah, et malheur pour moi, j'ai eu le malheur de trouver quelque chose dans la rue. C'est une galère parce que j'ai pas le droit de l'ignorer. Attendez, j'ai même pas le droit de l'ignorer. Je suis obligé de le prendre.
Ouais.
Je le prends. Maintenant, je dis attendez, mais vous me demandez de le prendre. Mais moi, ça me prend du temps, ça me prend une heure de mon temps, ça.
Il a répondu à la question. Je sais qu'il est dedans. Elle est dedans la réponse.
Non, mais il faut qu'il pose d'abord.
Il pose la question.
Attends, mais on lit pas tout ce que je
vois. Hein? Est-ce que
bois un petit coup, ça va te réchauffer l'esprit.
Je reprends. Donc, tu as quelqu'un. Il a trouvé quelque chose. Il voulait pas trouver. Il a rien demandé. Il voulait étudier la Torah. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu vas aller prendre ton temps pour aller chercher. Tu vas prendre une heure pour aller le faire. Il va dire, mais je comprends pas. Tu viens me dire que l'étude de la Torah, c'est très important. Alors voilà, à cause de ça, je vais aller faire une mitzvah. À cause de ça, je vais pas étudier la Torah. Qu'est-ce que répond à la Gemara? La Gemara dit, tu vas arrêter ton étude de la Torah pour faire la mitzvah.
C'est comme pour s'occuper d'un mort.
Exactement. Tu vas arrêter ton étude de la Torah pour aller faire la mitzvah. Il y a une histoire comme ça avec le Baal Shem Tov. Une histoire aussi comme ça avec le Rabbi aussi. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu dans un Beit HaMidrash, un juif, qui avait son cheval qui était en train de sombrer dans les sables mouvants. Et vous savez, au début, on peut encore récupérer la situation, mais il faut être à plusieurs. C'est très très dur. Et donc, il est venu, l'endroit le plus proche qu'il a trouvé à côté du piège, c'était une yeshiva. Il est entré dans la yeshiva, il a demandé de l'aide. Et les élèves, ils ont commencé dans un pile-poule. Est-ce qu'il fallait arrêter l'étude pour aller l'aider? Et l'autre, il est revenu une fois, deux fois, trois fois, etc. Et entre-temps, le cheval, il s'est enfoncé, c'est fini. Et l'autre, il a perdu toute sa part dans ça, parce que le cheval, c'était son taxi, quoi. C'est comme sa voiture. Le cheval, il s'est enfoncé. Et il y avait un vieux monsieur dans la synagogue qui était là, qui était en fait un tzaddik caché, qui a maudit tous les élèves. En particulier, l'élève, celui qui était le principal, celui qui était là en train de faire les exciter. Il a dit, ceux qui n'ont pas voulu aider un autre juif, ils n'auront pas de pied. Comme ça, il a dit, ils n'auront pas de pied. Comme ça, il a dit. Et ce jeune homme qui était comme ça, qui était malheureusement, qui était celui qui était en train de rendre fou tout le monde, d'accord? Et bien effectivement, quelques années plus tard, il a eu une grave maladie en épi, il n'arrivait plus à marcher. Et c'était un Rosh Hashiva, parce que c'est une grosse tête, c'est un génie. Et il était Rosh Hashiva comme ça, il est resté jusqu'à 75 ans, chaise roulante. Et lorsqu'il a eu 75 ans, il y a une fois un mariage, il a rencontré quelqu'un, et il lui a dit, vous savez, si ça vous dérange pas, je vais écrire pour vous Rabbi Lubavitch. C'est une vraie histoire, j'ai la photo et tout, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vais écrire pour vous Rabbi Lubavitch. Il a écrit Rabbi Lubavitch, il a écrit toute son histoire. Il dit, voilà ce qui s'est passé, j'ai manqué de respect à ça, etc. J'ai eu quelqu'un qui m'a donné une malédiction, une xéra, et voilà ce qui m'est arrivé. Le Rabbi lui a dit, il faut que vous preniez sur vous de faire Chitat, Chumash, Tehilim et Tanya, et d'encourager tous vos élèves à le faire. Si vous ferez ça, je vous garantis que vous aurez la guérison. Et il a guéri, voilà, 75 ans. 75 ans, il a guéri. Il a fini, deux ans plus tard, il n'a plus de chaise roulante. Pourquoi je vous raconte ça? Tikkun. Qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? On voit que, il n'avait pas le droit de se poser la question. Dès qu'il y avait un juif qui était venu te demander, viens m'aider, il fallait aller l'aider. Tu y vas. Maintenant, lui, exactement.
C'est ton cheval.
Hein? Mais c'est ta part d'assa.
Quoi, mais bon. C'est aidé. Tu vas être obligé de réfléchir, ça m'une.
David, tu viens me voir, tu me dis, Mendy, voilà, le four à pizza est en train de brûler, viens m'aider. Quoi? Tu dis, Mendy, viens s'il te plaît, prends l'extracteur, viens m'aider. Bien sûr, je viens.
Mais naturellement, viens.
C'est ça de Gamzou.
Hein?
Gamzou.
Ah oui?
Il a mis du temps à.
Ah oui?
C'est pas évident.
Je voulais
faire bien,
mais il se voit, de toute façon, de la prendre. Ayom, là, ce tam. Ayom, là, c'est ce qu'il dit, c'est le mot. Et donc. Homme, que chez IF Char, attention, ça c'est seulement, que chez IF Char, la sota, aliédé, acherim. En bas de la page 158, c'est à condition que cette mitzvah ne peut pas être accomplie par d'autres, comme le cas que je vous ai donné. Ouais. C'est que, il est venu les appeler. S'il y avait à côté des cochers, il aurait pu dire, les élèves auraient pu lui dire, va chercher des cochers, nous étudions la Torah. Mais là, il y avait personne à côté, et c'était une mitzvah qui dépendait du temps, ça veut dire que, 5 minutes plus tard, il n'y avait plus rien. Quand il y a une mitzvah qui ne peut pas être accomplie par d'autres, eh ben on y va. Combien d'exemples on a par exemple aussi quand on doit aller par exemple quand ça nous arrive à la yeshiva des fois, même si on n'arrête jamais l'étude de la Torah à la yeshiva, des fois par exemple tu vas avoir une levaya d'un très très grand rab, tout le monde va sortir. Mais par exemple des fois on va venir te voir pour aller faire une mitzvah parce qu'il y a une personne qui est niftar, il y a personne pour aller à l'enterrement. Bon, il y a plein de juifs dans le monde, mais comment il y a personne? Le cimetière il a 10 minutes d'ici, il y a personne. Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr qu'on va y aller. Parce que quand c'est une mitzvah, de l'instant et qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire, qu'est-ce qui passe en priorité? C'est la mitzvah, pas l'étude.
Ah oui.
Ah oui. Donc de là, ça c'est la preuve que dans la balance, d'un côté on avait la mitzvah de la tzedakah qui était la plus importante, d'un autre côté on avait l'étude de la Torah qui est très très importante, je donne mon moi. Donc il faut essayer de faire les deux, mais quand j'ai un choix à faire, lequel je choisis? Quand j'ai un choix à faire entre les deux, lequel je choisis? L'action. L'action.
Donc, finalement, à la fin du fin.
Fin du fin, c'est l'action.
Si je mets la tzedakah tous les jours,
pourquoi? Mais il explique pourquoi. Explique pourquoi, vous avez la réponse. Pourquoi? Kizek mishum, kizek kol adam v'tachlit briyato v'ridato le'olam hazeh. Parce que ça, c'est tout le but pour lequel l'homme est descendu en bas.
C'est pour l'action.
C'est pour créer une demeure pour Akadosh Baruch Hu, Léafra, Hachocha, Linhora, je suis à la page 59, pour transformer l'obscurité en lumière. Veimalek, Vodashem, et Kol Aret, Sagashmit, Daika, Verokubas, Anakalisir Léel. Comment je fais ça? Je fais ça quand je fais la mitzvah. Quand je fais une mitzvah, je transforme le matériel du monde. Je veux dire, ah, mais si je vais étudier, je fais des choses extraordinaires, je vais donner mon moi. On te dit, c'est très important de donner ton moi. Mais quand tu as le choix entre donner ton toi et transformer le monde, éclairer l'obscurité du monde avec une mitzvah, on te dit, il n'y a pas photo, on prend toute une mitzvah. Et je vais aller plus loin que ça. En vérité, le rabbi, il nous fait remarquer la chose suivante, un détail très intéressant. Quand vous reprenez l'histoire du monde, juste deux secondes, après on fait la question. Quand vous reprenez l'histoire du monde, l'histoire du peuple juif, on voit que dans l'histoire du peuple juif, il y a 2000 ans, on n'accordait pas beaucoup de place à l'action. On accordait la place majeure était donnée à qui? Était donnée à l'étude. Il y a 2000 ans, vous avez la Gemara, vous avez la Mishnah, etc. On raconte pas des histoires de grands maîtres qui ont fait des grandes actions. Il y en a certainement, mais c'est pas ce qu'on a retenu. C'est l'étude. Et aujourd'hui, on a remarqué que plus on s'approche de Mashiach, et c'est une réalité ce que je vous dis, plus on s'approche de Mashiach et plus on voit qu'il y a une inversion des tendances. Ça veut dire qu'avant, c'était principalement l'étude, que l'étude, et l'action pas beaucoup. Et plus on avance dans Mashiach, et plus on voit que dans les faits, la majorité du peuple juif est plus dans l'action que dans l'étude. Comment ça se fait? Ben c'est pas par hasard. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, il faut accélérer parce qu'il faut raffiner le monde. Et par contre, on raffine le monde? Encore plus que la Torah, c'est par l'action.
C'est aussi le fait de ne pas rater un moment.
Oui, donc, mais ça veut dire que, étant donné que l'action a plus de pouvoir de raffiner le monde que l'étude, c'est la raison pour laquelle on a privilégié le...
Alors que tout à l'heure, c'était tout le contraire. C'était plutôt l'étude qu'il fallait privilégier au détriment pratiquement de l'action.
Ça, j'ai pas dit au détriment.
Enfin, bon, non, il fallait privilégier. Non,
justement, j'ai pas dit au détriment.
D'accord, parce que mais enfin, il fallait privilégier l'étude en lieu et place de l'action.
Nous, en ce qui nous concerne, voilà.
Et là, vous me dites le contraire.
Nous, en ce qui nous concerne, voilà ce qu'on doit faire. Si par exemple, on peut faire les deux, je peux faire des mitzvot liés à l'action, je peux aussi venir en cours de Torah. Là, on te dit, viens en cours de Torah. Pas de problème, parce que chacun a son aspect. L'action, la tzedaka, on a dit, ça raffine le monde et ça raffine tout ton corps. Et l'étude, tu donnes ton toit, fais les deux. Mais si j'ai un choix, je dois faire des choix. Par exemple, ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, est-ce que tu peux venir me chercher à l'aéroport lundi soir? Mon avion, il atterrit à 20h30. Je sais que j'ai l'avion, je sais que j'ai le cours de Tania. Qu'est-ce que je fais? Alors, tu dis, si, tu peux envoyer quelqu'un à ta place. Alors, ta mère, elle te dit, non, je sais que je peux envoyer quelqu'un à ta place, mais j'ai besoin que c'est toi qui viens me chercher. Parce que je viens de te parler, j'ai des choses qui sont passées, etc. Je veux que tu viennes. Alors, tu peux toujours te défendre. Tu peux dire, oui, mais bon, c'est pas grave. Tu vas venir en Uber et on parlera après. Là, on te dit, non. On te dit, tant que tu peux faire par quelqu'un d'autre, tu fais. Dès qu'il y a quelque chose qu'on te dit que c'est toi qu'on a besoin, pas quelqu'un d'autre, et ben, dans ce cas-là, tu fais ce qu'il faut faire. Et l'action passe avant l'étude. Voilà, on a la réponse à la question. Attention, ne commencez pas à me faire des excuses maintenant pour le...
On parle de l'action, on parle de la tzedaka.
Shalom Bayit, hein?
Oui, non, mais là, c'était un cas de Shalom Bayit.
Là, on parle de l'action, on parle
Shalom Bayit, c'est... Non, Shalom Bayit, c'est Nice, c'est les excuses, Shalom Bayit.
L'action, la tzedaka.
Quand une femme, elle sait que c'est vraiment important pour nous, elle dit rien. Enfin bon, c'est mon avis, ça. Si vraiment elle sait que c'est important pour vous de venir au cours, elle va tout faire pour elle.
Michael dit qu'il pense que c'est ça que tu dis, toi. Que si tu mets juste une pièce, ça suffit pour la.
Ou deux, s'il faut mettre deux pièces.
Non, mais d'un autre côté, quand tu donnes une pièce, tu donnes pas ton moi.
Combien? Voilà. C'était ce qui était le plus important.
Non. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut les deux. Mais quand il y a un choix à faire, on va choisir l'action. Mais s'il n'y a pas de choix à faire, il faut les deux.
Non, mais d'après.
Il faut s'arranger dans sa journée, dans sa semaine, pour avoir les deux.
Non, d'après le texte, on fait d'abord.
S'il y a marqué, ce qui est le plus essentiel, c'est l'action.
Les mitzvot.
Ça, c'est parce qu'on n'a pas.
C'est dans le contexte.
Dans le contexte, c'est un contexte spécifique. C'est que j'ai un choix à faire.
D'accord, ok, c'est le contexte.
Voilà. Quand tu as un choix à faire, on te dit bon, tu fais le choix est vite fait, c'est tout.
D'accord, entre ça et ça, dans le choix, j'ai un truc, c'est ça.
Oui.
Tu ne fais pas de choix, tu.
Mais si j'ai pas besoin de faire un choix, si j'ai besoin de faire un choix, c'est clair qu'il faut les deux. Il faut les deux. Parce que, encore une fois, tu sens pas que tu donnes ton toi sinon. Je donne pas mon moi. Faut sentir qu'on est son roi. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine encore sur la Tzedaka, sur l'action. Et bon, de toute façon, on a pas mal. Hein. Je crois qu'on la semaine prochaine, on terminera le chapitre 37. Voilà, on a fini le chapitre 37. Hein. Alors, Rabbi Chaim Lakesh Omer Hatzak, le jour de Zakat, le Tzrayet, le Tzrayet, le Tzrayet, Adonai Chafetz, le Man, Sisko, Agdil Torah, Yadir, Kaddish al Israël.
Amen. 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 Amen.